si peu de choses devant la grandeur de l'univers. L'univers est si petit devant la puissance de Dieu. C'est à l'ombre des lumières que nos esprits se reposent.
Le Coran est une prédication orale reçue fragmentairement de l'ange Gabriel, Djibril, par voie auditive, comme parole incréée de Dieu, par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut communiquée oralement par celui-ci et mise par écrit, de son vivant, par des scribes bénévoles, sur des omoplates, des morceaux de parchemin, des tablettes de bois, des débris de poterie. Parmi ces scribes, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Ubay ibn Ka'b, Hassan ibn Thabit, Muawiya ibn Abi Sufyan. Il y a lieu de noter surtout Zayd ibn Thabit, qui devait jouer ultérieurement un rôle majeur dans l'établissement définitif du texte sacré. Prophète Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, la plupart de ses compagnons, al-Sahaba, savaient par cœur le texte sacré dans son intégralité. Après sa mort, un grand nombre des porteurs du Coran en leur mémoire, Hamilul Qur'an, furent tués au cours de sanglantes expéditions. Les califes, Abu Bakr, dès son accession au pouvoir, en l'an 11 de l'Hégire, soit durant l'année 632 de l'ère grégorienne, se mit contre les tribus bédouines en révolte. Les apostats et les faux prophètes, en particulier contre le plus dangereux de ces derniers, Mousseïlima, surnommé El-Kaddab, l'imposteur. Il fut aidé par un transfuge de l'islam nommé Naharu al-Rajel et par la puissante tribu des Benu Hanifa, solidement retranchée dans les forteresses de Yamama. Le besoin se fit sentir alors de fixer d'urgence le Coran par écrit. Le premier à s'inquiéter de cette situation et de l'avenir du texte sacré fut Omar ibn al-Khattab, qui fit part de ses craintes à Abu Bakr al-Siddiq. Celui-ci refusa tout d'abord d'entreprendre un travail auquel le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'avait pas songé. Cependant, Omar parvint, en insistant à plusieurs reprises, à persuader le calife de l'utilité d'un tel travail et à dissiper ses scrupules. Faisant appel tous deux au concours du meilleur secrétaire du prophète, Zayd ibn Thabit, une collection de feuillets formant un volume, Mashaf, contenait les versets coraniques recueillis de la bouche d'au moins deux récitateurs, honorablement connus pour leur probité intellectuelle et leur piété. Zayd, qui savait lui-même le Coran par cœur, mais à qui Abu Bakr avait recommandé de ne pas se fier à sa seule mémoire, entreprit donc sa besogne en toute indépendance, n'acceptant que les versets indiscutablement établis. Ce prototype fut conservé par Abu Bakr durant son califat et à sa mort, il fut confié par son successeur Omar à Hafsa, fille de ce dernier et veuve du prophète. Lorsqu'une multitude de textes coraniques, incontrôlables et souvent farcis d'inexactitudes, circule dans les diverses contrées de l'islam, le troisième calife, Uthman ibn Affan, jugea aussi nécessaire qu'urgent de mettre fin à cette anarchie qui risquait de compromettre la pureté et l'unité du dogme et de diviser les musulmans. Il emprunta donc à Hafsa l'exemplaire établi sous Abou Bakr et le remit comme document de base à une commission d'experts qu'il chargea de procéder à une recension du texte. La commission très restreinte était composée de Zayd ibn Thabit, Abdallah ibn Zubayr, Sa'd ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harit. Leurs connaissances en la matière et leur autorité, Zayd ibn Thabit excepté, étaient loin d'égaler celles des compagnons que le calife avait, pour des mobiles personnels, injustement écartés. En particulier Ali ibn Abi Talib, ibn Abbas, Abdallah ibn Mas'oud et Abu Moussa al-Hashari. Un autre récitateur témoin, non moins réputé, qui avait servi de secrétaire au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ubay ibn Ka'b, n'en faisait pas partie, étant mort 2 années auparavant. Cette commission prit sa tâche à cœur et dut faire appel à une sorte de consultation générale à tous les musulmans dépositaires de la prédication révélée. Hufada, son appel fut entendu. Les éléments rassemblés par la commission ont été soumis à une critique externe des plus sévères. Pour qu'un verset récité fût retenu et pour qu'une lecture fût préférée à une autre, il fallait, pour en garantir l'authenticité, la concordance des témoignages, le critère de forme étant a priori la primauté du parler de Quraysh, langue du prophète, sur les autres parlés arabes. Elle put, par cette méthode, compléter et réviser le corpus d'Abou Bakr et de Omar et procéder à une mise en ordre des sourates et des versets. Ce corpus fut reproduit en plusieurs autres exemplaires qui furent envoyés dans les diverses provinces de l'Empire musulman. Quelques années plus tard, un des plus dévoués soutiens de la dynastie Omeyyade al-Umayyoun, à ses débuts, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Tarifit, entreprit de donner une meilleure présentation au corpus de Uthman ibn Affan pour l'imposer au détriment des autres versions par une fixation plus sûre du texte et par la réduction des variantes au minimum. Le Coran comprend un ensemble de 114 sourates révélées les unes à la Mecque, les autres à Médine el-Médina. Quelques-unes, au cours d'un déplacement ou d'une expédition, dans le corps d'une sourate, les versets n'appartiennent pas toujours à un même lieu ou à un même moment d'inspiration. Les spécialistes musulmans des études coraniques ont soumis le texte sacré, comme on peut s'en douter, à un examen formel des plus serrés. Le plus illustre d'entre eux dans cet ordre d'idées est le polygraphe Al-Asyuti, plus connu sous le nom de Jemaluddin Al-Sayuti, mort durant l'année 911 de l'Hégire, soit en 1505 de l'ère grégorienne. Les écoles de lecture coranique. L'école de Médine. Le fondateur Nafi' est né à Médine à une date imprécise et mort dans cette même ville durant l'année 169 de l'Hégire, soit en 785 de l'ère chrétienne. Son principal disciple fut lui-même Malik, et les meilleurs transmetteurs de sa lecture et de sa psalmodie furent Warsh, mort en 197 de l'ère de l'Hégire, soit en 812 de l'ère grégorienne, et Ibn Khaloun, mort vers 220 de l'ère de l'Hégire. Sa lecture et sa psalmodie s'implantèrent en Égypte, d'où elles se répandirent en Tunisie grâce au Qayrawani Ibn Qayroun, mort durant l'année 306 de l'Hégire, soit en 918 de l'ère chrétienne. De là, elles submergèrent durant le Moyen-Âge la Sicile, l'Algérie et l'Espagne. Des influences diverses sont venues se rajouter à ce mode de lecture. Grâce à des lecteurs modernes émérites, le cheikh Mahmoud Houssari et le cheikh Mostafa Ismail, venus tous deux à la mosquée de Paris, où ils purent donner en 1965 et en 1966 toute la mesure de leur science et de leur art de psalmodier le Coran. Cette école est appelée à maintenir ses positions et à en gagner de nouvelles à travers le monde musulman. École de la Mecque. Le fondateur est Ibn Khatir, né à la Mecque, où il est mort en l'an 120 de l'Hégire, soit durant l'année 737 de l'ère chrétienne. Elle eut comme transmetteur El-Bézi, né en 240 de l'Hégire, et son disciple Runbul, mort à la Mecque en 291 de l'ère de l'Hégire. École d'El-Basra. Le fondateur Ibn Ala, mort en 154 de l'ère de l'Hégire, ses transmetteurs furent As-Susi, mort en 261, et Ad-Douri, mort en 246 de l'ère de l'Hégire, soit en 860 de l'ère grégorienne. École de Dimeshq. Fondateur Ibn Amir, mort en l'an 118 de l'Hégire, soit en 736 de l'ère chrétienne, dont les disciples et les transmetteurs furent assez nombreux. Ad-Dimari, mort en 145 de l'Hégire, Ibn Zahwan, mort en 241 de l'Hégire, Sulaymi, mort à Damas durant l'année 245 de l'Hégire, soit en 859 de l'ère chrétienne. Les lectures et la psalmodie de cette école sont encore en vogue en Syrie. École de Koufa. Elle se subdivisa dès ses débuts en trois écoles ayant chacune un système propre à elle. Le système de Asim, le système de Hamza et le système de Qisa'i. de réciter et de lire le Coran. La piété musulmane attache une grande importance à la récitation, sans le secours du texte Tilawa et à la lecture cursive Al-Qira'a du Coran. L'une et l'autre doivent être parfaites, puisqu'il s'agit de paroles divines dont il convient de respecter autant le fond que la forme. Pour parvenir à ce but, le récitant ou le lecteur doit articuler à la perfection les consonnes arabes, donner à chaque voyelle sa juste valeur, observer à propos de chaque syllabe, de chaque mot, de chaque proposition dans le corps du verset qui est en prose rimée, el-sajj, les règles d'allongement, la brièveté de quiescence, l'emphase, l'inclinaison, l'adoucissement de la voix, de contraction, de durée de pause et de reprise, qui ne sont pas laissées au hasard ou au goût de chacun. Elles sont, au contraire, l'objet de toute une discipline connue sous le nom de tajwid, parfaite diction du Coran en connexion avec la grammaire et la phonétique arabe. Le lecteur du Coran, El-Mujawid, doit être un homme pur et parfait, ou presque parfait. De par le nom de Dieu tout miséricordieux, tout compatissant, dis, je cherche un refuge auprès du Maître des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes, pour me garantir contre le mal venant du tentateur qui s'esquive, qui insinue de mauvaises pensées dans l'esprit des hommes, qu'ils soient des djinns ou qu'ils soient des humains. Que la paix règne dans vos foyers, que la paix soit sur vous. Au revoir.